Monsieur Évariste Ngamana, bonjour.
Bonjour, bonne aventure.
La loi portant statut particulier de la fonction publique parlementaire a été adoptée vendredi 23 décembre à Bangui par les représentants du peuple. Quel est l'intérêt de ce document juridique?
L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il est offert à l'Assemblée nationale, du moins à l'administration de l'Assemblée et à l'ensemble du personnel, un cadre juridique qui va pouvoir régir son organisation et son fonctionnement, puisque depuis quelques années, la fonction publique parlementaire est régie par un arrêté pris en 2009. Aujourd'hui, nous avons essayer de hausser le niveau de ce texte-là pour en faire une loi. Voilà l'avantage que cette proposition de loi offre à l'administration parlementaire.
Vous avez parlé aussi d'une garantie de retraite.
Bien, la retraite des fonctionnaires parlementaires est gérée par la Caisse nationale de sécurité sociale en vertu d'une convention qui lie cette caisse-là à l'Assemblée nationale. Pour pouvoir donner force à cette convention, il fallait certaines dispositions dans cette loi qui permettront à ce que, dès que le fonctionnaire parlementaire est admis à faire valoir ce droit à la retraite, qu'il ne puisse pas être lésé. C'est ainsi que certaines dispositions ont été mises dans cette loi-là pour pouvoir conforter la position du personnel qui travaille à l'Assemblée nationale.
Dans l'exposé de motifs avant l'adoption de cette loi, vous dites ceci: pour disposer d'un personnel qui lui est propre et affirmer son autonomie administrative découlant de l'autonomie financière prévue par la Constitution. Comment expliquez-vous l'autonomie financière de l'Assemblée nationale dont le personnel émarge sur le budget de l'État?
C'est au terme de l'article 22 de la Constitution qui dit que l'Assemblée nationale doit disposer des règles de son organisation et de son fonctionnement et a conféré par la même occasion une autonomie financière à l'Assemblée nationale. Cette autonomie financière s'exerce au travers des modes d'exécution de son budget qui procède par une dotation globale. Et l'Assemblée nationale, dès lors que, après par exemple, le vote de la loi de finances dispose d'un budget. Maintenant, l'Assemblée fonctionne par appel de fonds. En réalité, sous d'autres cieux, une fois le budget voté, la dotation globale de l'Assemblée nationale est déposée sur le compte de l'Assemblée nationale. Mais compte tenu de la réalité de trésorerie et de l'économie de notre pays, ce fonctionnement, cette autonomie-là s'exerce par un mode qui s'appelle l'appel de fonds. Donc, chaque fois qu'il y a des besoins ou des dépenses à exécuter, l'Assemblée nationale émet un appel de fonds au trésor public qui met les fonds à disposition. Et puisque l'Assemblée nationale dispose d'une autonomie financière, il lui faut aussi disposer d'un personnel qualifié. C'est comme ça que, dès le début, le personnel de l'Assemblée nationale était constitué des personnels détachés de l'administration publique ainsi que de contractuels. Mais c'est à partir de 2009 que la fonction publique parlementaire a été créée par l'arrêté pris par le président de l'Assemblée de l'époque en 2009, le 23 décembre précisément. C'est ainsi que, dorénavant, l'Assemblée non seulement jouit d'une autonomie financière, mais jouit aussi d'une autonomie au niveau de son administration et de son personnel.
Avec ce statut particulier, quel serait le mode de recrutement du personnel?
Pour une certaine catégorie du personnel, notamment ceux de la hiérarchie A, le mode de recrutement se fera prochainement par voie de concours, par voie de test, ou bien pour ceux qui ont déjà une expérience professionnelle au sein de l'administration parlementaire, ils peuvent accéder au grade d'administrateur parlementaire à travers le Conseil supérieur de l'administration, qui est un nouvel organe qui est créé au sein de cette loi-là, qui va statuer, donner son avis au bureau, et un arrêté pris par le président de l'Assemblée nationale pourra formaliser le recrutement de ce personnel.
Ce nouveau mode de recrutement entraîne le souci du principe de mérite. Qu'est-ce que cela offre comme avantage?
Effectivement, ça a plusieurs avantages. L'avantage premier, c'est que dorénavant, l'Assemblée nationale disposera d'une administration qui sera efficace, efficiente, pour pouvoir appuyer les députés dans leur rôle. Et aussi, l'autre avantage, c'est qu'on va dépolitiser le mode de recrutement et aussi donner la possibilité aux centrafricains, toutes catégories confondues, de pouvoir prétendre à une fonction au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, ça offre non seulement un avantage juridique, mais ça offre aussi un avantage du point de vue social, puisqu'il n'y aura plus de distinction entre les gens qui seront appelés à venir travailler dans l'administration parlementaire.
Et pour les autres employés de l'Assemblée nationale qui ne seront pas recrutés à travers un test ou bien un concours, comment cela se ferait-il au nom de la bonne gouvernance?
Dorénavant, il y aura un organe appelé le Conseil supérieur de l'administration qui sera présidé par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. À la demande du président président de l'Assemblée nationale et des membres du bureau, ce conseil va statuer, va exprimer le besoin en personnel, surtout que certains sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Et pour combler ce vide-là, le Conseil supérieur de l'administration va exprimer le besoin. Et à partir de là, le président de l'Assemblée et le bureau, au travers d'un arrêté, va pouvoir recruter d'autres personnels pour qu'il y ait ce qu'on appelle le changement numérique.
Quelles sont les limites d'âge fixées pour le départ à la retraite des fonctionnaires parlementaires?
Bien, lors des débats qui ont prévalu pour le vote de cette proposition de loi, nous avons estimé qu'il fallait arrimer l'âge de la retraite des cadres de l'administration parlementaire avec ceux de l'armée, par exemple, de la police ou de la magistrature. Donc, les cadres supérieurs, c'est-à-dire ceux de la hiérarchie A, que ce soit A1, A2, A3, de l'avant, iront à la retraite à l'âge de 65 ans et les autres, bien entendu, en deçà. Donc, ces amendements-là qui ont été proposés par un de nos collègues et moi, en tant qu'initiateur de cette proposition de loi, j'avais soutenu cela et les collègues députés en plénière l'ont favorablement apprécié et nous avons intégré cette disposition dans la loi.
Certains âges, 62 ans, 60 ans, 65 ans, quelle est la clarification?
La hiérarchie A, ça sera 65 ans. La hiérarchie B, ça sera 62 ans. Et la hiérarchie C, ça sera 60 ans. Parce que c'est en fonction des rôles ou bien des métiers exercés par ces différentes catégories du personnel. On a mis en place cette classification pour le départ à la retraite.
Quels sont les différents corps d'emploi et leurs catégories? Que présente ce statut particulier?
C'est vrai que de manière formelle, nous n'avons pas eu à relever cela dans cette proposition de loi. Mais un texte réglementaire viendra mettre en place les corps d'emploi. Mais déjà, je puis vous rassurer que de manière générale, dans cette proposition de loi, il y a d'abord le corps des administrateurs principaux, il y a le corps des administrateurs parlementaires, il y a le corps des attachés parlementaires et il y a le corps aussi de ceux qui appartiennent à la IHSC, par exemple les techniciens, les travaux, etc.
Quel est le traitement dont un fonctionnaire de l'Assemblée doit bénéficier en position de détachement?
Effectivement, c'est l'un des amendements aussi qui a fait l'objet de beaucoup de débats et qui finalement a été adopté par la plénière, c'est que le fonctionnaire parlementaire en position de détachement dans une autre administration est appelé à bénéficier de l'indice de responsabilité lié à sa fonction, tout comme ceux qui quittent l'administration publique pour pouvoir venir à l'Assemblée nationale.
Le vote de cette loi n'a pas été possible au premier jour parce que le quorum était insuffisant. Pourquoi les députés qui s'absentent négligeant les séances de vote de loi ne sont pas sanctionnés?
Effectivement, il y a des dispositions dans la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui partent d'un simple rappel à l'ordre, à des suspensions ou bien des avertissements, etc. Nous avons plusieurs fois attiré l'attention de nos collègues députés sur la question, que ce soit lors des travaux en commission ou des séances de plénière. Et ces derniers temps, effectivement, le constat a été fait. Mais j'avoue que ce jour-là, c'est parce que d'autres collègues étaient en travaux en commission parce qu'il fallait valider et adopter, par exemple, le rapport sur des travaux en commission finance sur la loi de finances 2023. C'est ça qui a fait que certains collègues étaient venus, ils étaient obligés de se retirer au niveau de leur commission. Mais quant à ceux qui brillent dans l'absentéisme chronique, les mesures disciplinaires seront prises prochainement.
Monsieur Évariste Ngamana, merci.
C'est à moi de vous remercier.